les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Les charmants, les casse-pieds, les habitués, les occasionnels, les décidés, les indécis, les informés, les approximatifs, les timides, les décontractés, les cultivés, les fadas, les bibliophiles, les bavards, les collectionneurs. Parmi ceux qui poussent la porte d'une librairie, clients potentiels et donc lecteurs probables, mais pas toujours, on rencontre tous les genres. Mais qu'importe, car, comme le disait Marie-Madeleine Chan, de la célèbre librairie Chan du boulevard Montparnasse, dans le troisième épisode d'une série que Laure Adler consacrait aux libraires en 1988, celui, quel qu'il soit, qui entre dans une librairie doit s'y sentir à l'aise. Sauf les méchants, bien entendu, et les voleurs, ça va de soi, puisqu'on vole volontiers des livres, c'est bien connu, et sans vergogne encore, comme on l'entendait rappeler dans l'émission que nous allons entendre. Qu'est-ce qu'une librairie ? Que se passe-t-il dans une librairie ? Dans ce troisième volet de la série, on s'intéressait au lieu, à l'espace qu'est une librairie et à ceux, en tout genre, qui le peuplent. C'était dans les nuits magnétiques et c'était l'occasion de découvrir que le métier de libraire tient parfois un peu de celui de psychanalyste ou de celui de confesseur. Nuit magnétique, les libraires, troisième des quatre épisodes, diffusé la première fois le 21 avril 1988 sur France Culture.
Nuit magnétique, bonsoir. L'entrée est libre, quelquefois elle paraît pourtant inaccessible. Elle s'appelle Clair de Plume, Plume de Lune, La Joie de Lire, La Terrasse de Gutenberg, Shakespeare et compagnie, José Corti, Les Temps modernes, Chan, La Une, La Fleur des Vents. Elles sont des repères, des escales pour le promeneur des villes. On peut y demander des éditions originales, des romans avec des jeunes filles sur la couverture, des ouvrages contenant les sonnets de Shakespeare, traduits par une universitaire du Dakota du Sud. Elles sont des navires échoués au milieu des villes, des lieux de secret, de retrait, de connivence. Souvent, on y parle peu, mais le silence n'y est pas pesant. Elles sont des cabinets de curiosité, des bibliothèques idéales, des jardins qui sentent le papier. Nuit magnétique, toute cette semaine, les libraires, Jean Couturier, Laure Adler. Ces petites librairies tenues par ceux qui aiment les livres et qui surgissent dans les quartiers déchus pour y vivre un moment avant que l'immeuble ne soit abandonné ou détruit. Ces revues, fondées par de jeunes écrivains et leurs amis, pour qu'elles durent deux ou trois numéros et qui existent parce qu'il y a des libraires qui les vendent. Ces manuscrits inédits, dont aucun grand éditeur ne voudrait, que les petits éditeurs ignorent et qui sont publiés par l'auteur ou quelqu'un qui a eu foi en son livre, de tout cela, les libraires, les vrais, sont les anges gardiens et les anges vengeurs. Ils ne sont pas nombreux, mais se reconnaissent entre eux. Ils sont divinement sans logis, car la frontière entre la librairie et chez eux a tendance à s'estomper. La librairie est souvent la maison, la leur et celle de leurs clients. La librairie est le sens qu'ils ont donné à leur vie. L'entrée est libre, la porte est toujours ouverte. Souvent, pas de sonnette pour signaler votre présence. Du silence et des livres, du parquet au plafond, en rang serré sur les rayons, en piles branlantes et de tous les formats, des livres anciens aux belles reliures, des épais in-folio, une coulée d'imprimés et de papiers de poche, des revues, des brochures, un déluge de catalogues. N'hésitez pas. Ne restez pas sur le seuil. Des livres, un libraire et vous. Nuit magnétique, troisième étape. Aux commandes du navire, les libraires. Ce soir, l'espace de la librairie. En En face d'un jardin, plein de coins et de recoins où les livres vous attendent familièrement, tranquillement, quasi sensuellement, telle est la librairie qu'a voulu Françoise Sorel.
J'ai beaucoup de mal à en parler. En fait, je sais que je la redécouvre quand je m'y suis absentée pendant 8 jours ou 1 mois.
Comme quand on rentre chez soi.
Quand on rentre chez soi, oui, oui. En fait, c'est vrai que le premier mot que je peux dire quand je rentre, et ça m'est arrivé la dernière fois où quand je suis partie la dernière fois, je suis rentrée le matin, je me suis dit « elle est belle ». Et c'est vrai que quand j'y suis tous les jours, je me dis « oh, elle est vieille, elle est sale, elle est mal rangée, il faudrait refaire des travaux, il faudrait faire de la peinture ». Et en fait, quand j'y suis rentrée, je me suis dit « mais elle est vraiment belle ». Elle sentait bon, elle était... Et je me dis, bon, si les clients peuvent ressentir ça quand ils rentrent, c'est bien. Parce que ça veut dire qu'on aura peut-être réussi quelque chose.
Françoise Pruner.
Et je pense qu'un bon libraire, c'est ça. C'est un libraire qui, quand il a fermé la porte de son magasin, continue. Il continue à se passionner. C'est quelqu'un qui lit aussi bien au niveau, dans les journaux, tout ce qui paraît, qui est livre. Je crois que c'est...
C'est un livre vivant.
Oui, mais je crois qu'un vrai libraire, un libraire qui est reconnu, c'est ça. C'est quelque chose, c'est une totalité, en fait, hein. C'est pas un métier, je crois que c'est plus une vocation.
Pourquoi vous êtes devenue libraire ?
Bah parce que j'en avais envie. J'en ai eu envie pendant 20 ans.
Roger de la Chavannerie.
Ça m'a pris quand j'avais 18 à 20 ans, et puis je l'ai réalisé à 40. Ça a été un peu long, mais j'ai l'impression que j'ai rattrapé le temps perdu.
Gilles Thomas.
Il y a un livre, j'ouvre le colis, qui me brûle les mains, je ne sais pas comment expliquer ça, ça me brûle. Et le titre me dit quelque chose, ça fait un déclic, ce qui fait que, bon, je vais aller plus loin, je vais essayer de le humer, de papillonner dedans, et puis je vais le lire après. Et puis, en général, je suis assez emballée.
Catherine Martinzé.
Dans une librairie, on passe sa vie. Donc, où on aime, et on fait tout ça volontiers, je veux dire, on ne compte absolument pas son temps, surtout pour les heures de fermeture. Donc, il faut aimer et se dire qu'on était là, c'est bien. Et moi, je pense toujours que j'étais heureuse d'être là. Et j'ai au fond jamais envie de tellement de rentrer.
Bernard Wallet.
Pourquoi je me suis intéressé aux livres ? Pourquoi j'étais dans la bibliothèque ? Pourquoi j'ai acheté des livres ? Pourquoi j'ai volé des livres ? Ce qu'il ne faut pas dire, mais c'est vrai. Pourquoi, je veux dire, enfin, pourquoi ça se passe ? Et pourquoi on rencontre un libraire un jour comme ça dans la vie ? Et moi, c'est comme ça que ça s'est passé. J'ai rencontré un libraire, qui était un libraire à Clermont-Ferrand, qui s'appelait Jean Rome, et quelqu'un à qui j'osais pas adresser la parole, parce qu'il me faisait, il m'apparaissait comme d'un autre monde, qu'il m'apparaissait comme, genre quand on est enfant, comme ça, et je pense que ça, c'est à la fois l'atout et la faiblesse du libraire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas entrer dans la librairie, parce qu'ils considèrent que c'est un lieu qui leur appartient pas, c'est un lieu dont ils sont exclus, c'est un lieu, terriblement intimidant. Et là aussi j'ai des expériences comme ça de gens qui n'osent pas qui n'osent pas dire un titre de livre de peur de se tromper Et ça, c'est des choses importantes, donc, je veux dire, qui donnent beaucoup d'humilité, qui donnent beaucoup de... J'ai aussi de tendresse pour les gens qui posent ce genre de questions. Et puis en même temps, l'atout formidable, c'est que justement, c'est quelqu'un qui peut bouleverser une vie, quoi. Moi, c'est mon cas. Je veux dire, d'une certaine façon, je veux dire, si j'avais pas rencontré ce libraire, peut-être que je ferais pas le métier que je fais, peut-être que je serais pas, j'aurais perdu une grande part de moi-même, quoi. Je ferais pas le. J'ai la chance de faire le métier qui me plaît et le métier que j'avais envie de faire depuis que j'avais, depuis l'âge de 13-14 ans. Et ça, c'est grâce à un libraire. Grâce à un libraire, il y a une bibliothécaire.
Doucement derrière moi et m'enfonçait dans un épais tapis bleu qui couvrait le plancher d'un mur à l'autre. J'avisais des fauteuils confortables de cuir bleu, séparés par des tables de fumeurs. Quelques reliures de cuir ouvragé disposées sur des tables étroites et brillantes entre des serre-livres. Dans des vitrines de glace sur les murs se trouvaient d'autres reliures analogues, belles marchandises. Le genre de truc qu'un riche financier achète au maître après avoir embauché un aide pour y coller son ex-libris. Le fond de la boutique était constitué par une cloison de bois veiné. Une porte fermée en occupait le milieu. Dans l'angle formé par la cloison et un des murs, j'aperçus une femme, assise derrière un petit bureau où se dressait une lanterne de bois sculpté. Elle se leva lentement et s'approchait en ondulant dans sa robe noire collante de tissu mat. Elle avait de longues cuisses et elle marchait avec un certain petit air que j'avais rarement remarqué chez les libraires. Elle était blond cendré, les yeux gris, les cils faits. Ses cheveux en vagues arrondies découvraient les oreilles où brillaient de gros boutons de jais. Ses ongles étaient argentés. Malgré son attirail, elle devait être beaucoup mieux sur le dos. Elle s'approcha de moi en déployant un sex-appeal capable d'obliger un homme d'affaires à restituer son déjeuner. Et, secouant sa tête, remit en place une boucle de cheveux doux et brillants, pas très dérangée d'ailleurs. Elle eut un sourire hésitant qu'on n'aurait pas eu de mal à rendre aimable. « C'est pourquoi ?» demanda-t-elle. J'avais mis mes lunettes fumées à monture d'écaille. Je pris une voix de tête assez voisine du gazouillis d'un oiseau. « Auriez-vous un baignure 1860 ?» Elle ne dit pas « Quoi ?» Mais ce fut tout juste. Elle eut un sourire insignifiant. Une originale ? Troisième édition, dis-je. Celle où il y a un erratum à la page 116. Je crains que non pour le moment. Et un chevalier au Dubon 1840 ? Toute la série, naturellement. Pas pour l'instant, ronronna-t-elle d'une voix revêche. Son sourire ne tenait plus que par les dents et les sourcils, et se demandait sur quoi elle allait tomber en se décrochant. Vous vendez des livres ? Demandai-je de mon fossé plein d'urbanité. Elle me toisa. Plus de sourire, yeux presque durs, attitude cérémonieuse et raide. Elle pointa des ongles argentés vers les étagères de glace. « Qu'est-ce que c'est d'après vous ? Des pamplemousses ? » demanda-t-elle sèchement. « Oh, ces choses-là ne m'intéressent guère, voyez-vous. Probablement des seconds tirages, de gravures sur acier, colorées au rabais, ce qu'il y a d'ordinaire, la vulgarité habituelle. » Non, je regrette, non. Je vois. Elle essaya de récupérer son sourire. Elle était aussi pénible qu'un greffier affligé des oreillons. Peut-être Monsieur Gégère, mais il n'est pas ici pour le moment. Ses yeux me scrutèrent. Elle se connaissait autant en livres rares que moi au dressage des puces.
We'll be right back.
Vous écoutez Nuit Magnétique, les libraires. Un joli quartier de Paris, encore un vrai quartier, avec des enfants qui jouent sur le trottoir à la sortie de l'école et font des marelles. Des bistrots où les vieux viennent pour jouer aux cartes, des commerçants qui appellent par leur nom leurs clients. Une petite rue dans ce quartier. Au bout de la petite rue, quasi déserte, une toute petite boutique. Il faut savoir pour voir. Un long couloir, des livres partout. En pile, en rayonnage, par terre. Il faut se fabriquer un chemin au milieu des livres pour arriver à lui. Lui, il s'appelle Jordi Vuiza. La trentaine, les cheveux longs, des petites lunettes rondes, une casquette vissée sur la tête, l'allure d'un jeune homme du 19e siècle, romantique engagé sur les barricades pendant la révolution de 1848. Le livre comme objet sacré, comme objet vital. Dans sa boutique, conversation à bâton rompu, avec, en milieu de parcours, l'arrivée d'un client.
Quelles sont les qualités d'un libraire ?
Les qualités ? D'agresser un peu le client, le secouer un petit peu, parce qu'il y en a, ils savent pas trop, de les orienter, de les pousser à acheter des choses qu'on considère bonnes alors qu'eux, ils ont un a priori dessus. Ça, je parle pour moi. Hein. Et de déconseiller les mauvais livres. À moins qu'ils veulent l'acheter. Alors là, s'ils veulent vraiment acheter des lits, ils achètent des lits. Hein.
Vous avez déjà mis à la porte des clients ?
Oui. Oui, pour cause... Pour cause d'antisémitisme, pour cause d'insultes, de choses comme ça. Une fois, c'est, et puis aussi, s'il y a des clients qui ont tendance à penser que le bouquiniste, le libraire, là, il est installé, il est tranquille dans son coin, il est là pour vous écouter. Alors, ils viennent, ils s'installent, ils racontent leur vie. Alors, comme ça, on en connaît pas mal. Et puis ça dure des heures. Alors comme ça, il y a une dame que je mis dehors, mais j'arrivais pas à la mettre dehors. J'avais beau lui dire, mais madame, j'ai du travail, j'avais beau téléphoner, monter sur l'échelle, prendre des livres. Elle parlait. Bon, ben alors à un moment, j'ai pris le balai. Je me suis mis à balayer. Puis j'étais vers elle, puis je l'ai balayée. Et elle reculait en parlant jusqu'au moment où elle s'est retrouvée dehors. Et là, j'ai fermé la porte. Ça, c'est le côté rigolo aussi de l'histoire.
Quelles sont les fonctions d'un libraire ?
Les fonctions ? La vraie fonction, ça serait de faire découvrir des textes. La vraie fonction. Mais en fait, l'authentique fonction, c'est d'écouter les gens.
Psychanalyse pas cher.
Ah ouais ? Ouais. Il y en a un ? Un client comme ça, et je ne l'ai plus revu celui-là, il a fait sa cure ici. Il me parlait de ses problèmes, et puis à la fin il me disait, bon, aujourd'hui je vous prends un livre à 200 francs. Bon, ben, ça a duré un certain temps comme ça, puis il n'est plus jamais revenu. Puis il y en a qui aiment qu'on les insulte, il y en a qui aiment... Puis j'ai un très très bon client, lui, ça se passe sur le mode passionnel. Il m'insulte. Si je lui trouve pas de livre, il m'insulte. Et si je lui en trouve, c'est trop cher pour lui, ou il considère que c'est trop cher, mais il veut le livre, il va m'insulter aussi. Ou alors il me vole le livre. Et ensuite, il me le paye 3 mois après. C'est tout un jeu, ça. C'est très très, très drôle.
Est-ce qu'il y a plusieurs catégories de clients ? Est-ce qu'on peut faire une galerie de portraits ?
Oh non, ils sont tous différents, c'est l'avantage. Il y a les petits discrets là qui montent, qui prennent leur truc, qui payent à la caisse, qui disent rien, c'est très sympathique. Ce qu'il y a de bien dans ce métier, c'est que c'est les clients qui vous apprennent ce que vous savez pas. Parce que quand un client arrive avec une liste de recherche, de livres que vous connaissez pas du tout, vous avez jamais lu, vous ne savez pas de quoi ça parle, il vous met ça en recherche. Et alors là, vous les cherchez, les livres. Et vous les découvrez, vous découvrez des auteurs, comme ça. Vous savez que tel type existe et que c'est bien. Alors que jamais on n'aurait eu l'idée d'acheter tel livre pour le lire. ça a l'intérêt aussi des clients. C'est eux qui vous forment, en partie. Parce que les bons clients sont des libraires spécialisés. Très très spécialisés dans un domaine très pointu. Alors ils cherchent des trucs impossibles. Comme ça qu'on apprend des pseudonymes, qu'on apprend des tas de choses.
Ah ben voilà un client.
Bonjour. Ça va ?
Oui, ça va.
Ouais, ça marche, ça ? Je vais voir.
Ou Abel Bonnard.
Ah oui, ça, oui. Ça, oui, oui.
Hein ?
Oui. De l'amitié, du bonheur.
Non, les textes glosants sur Bobino.
Pardon.
C'est pour un mémoire de sciences politiques.
Vous venez d'où, vous, pour un... pour le voir ? Vous avez... Vous l'avez connu comment, ce libraire ?
Parce que dès que je vois un libraire d'occasion, je rentre.
Ah bon ?
Quand il n'est pas sympa et qu'il est trop cher, je ne reviens pas. Mais quand il est sympa et qu'il me fait des prix, je reviens.
Et celui-ci, vous l'avez découvert comment ?
J'habite pas très très loin. Et puis, il suffit qu'il y ait des bacs dehors, ça suffit à attirer l'attention. Je regarde la vitrine, je vois Jean, j'entre. Voilà, mais on se connaît depuis longtemps. Vieux amis maintenant. Je lui laisse une bonne partie de ma paye, n'est-ce pas ?
Et vous faites quoi dans la vie ?
Je lis.
Ah, vous êtes lecteur professionnel ?
Ouais.
Vous êtes libraire peut-être ?
Non, pas du tout. Je suis lecteur de presse. Alors, je lis les journaux et avec l'argent que je gagne en lisant les journaux, je m'achète des livres pour une fois que j'ai fini de lire prochainement, je lis pour moi. Et comme je connais beaucoup de libraires et que j'ai mon petit réseau, tous les copains qui cherchent des bouquins me demandent de les trouver. Ce qui est le cas pour Gobineau aujourd'hui. Voilà. Non ?
Non, je sais pas.
Bon. Le cas échéant, dans d'autres bouquins, des bibliographies.
Oula, il faut que je fasse une enquête, là.
Ouais. Ouais. Comme d'habitude, c'est urgent.
Ben, vous m'appelez demain.
Ouais.
Je veux voir ce que j'ai sur Gobineau.
C'est un copain qui fait un mémoire de Sciences Po sur l'influence des idées racistes, enfin des thèses racistes ouais. De Gobineau sur la pensée politique contemporaine.
Ouais, donc il
alors j'ai déjà filé ce que j'avais.
De l'inégalité, du coup.
Mais ça, il l'a, ouais. Il a l'édition de la Pléiade ouais. Avec les notes et tout. Ce qu'il voudrait surtout, c'est les types qui ont repris ces bouquins, qui les ont réfutés, commentés.
Là, je peux vous en prêter un.
Alors, j'ai déjà trouvé tout ce qui était dans la Nouvelle École, dans Éléments, les thèses de la Nouvelle Droite, etc.
Pardon. Je vous en prête un, je vous le vends pas. C'est comment reconnaître un juif ? Voilà le superbe livre de M. Montando.
Merci.
Je refuse de vendre.
Oui. Bon. Vous pouvez pas me mettre ça dans un sac opaque.
Et vous faites pas de cochonnerie dessus.
C'est déjà une cochonnerie. Vous voulez pas que j'en fasse en plus dessus? Très bien. Merci.
À demain.
À demain.
Une librairie, c'est un lieu d'accumulation, de stockage et de vente de livres. Donc, pour les acheter, il faut des clients. Ah, les clients. Les clients ne sont plus ce qu'ils étaient, si j'en crois à l'avis de nombreux libraires, dont Georges Dupré.
D'ailleurs, on a de plus en plus de demandes à formuler. c'est-à-dire formulé aussi, c'est-à-dire c'est le style, je voudrais un livre. Mais je ne sais plus l'auteur, je ne sais plus le titre, je ne sais plus l'éditeur. Ah, bon, mais qu'est-ce que vous pouvez... Bon, des livres, vous voyez, il y en a plein là. Vous n'avez qu'à tendre la main, vous en prenez un, ça je pense... ça peut correspondre à votre besoin. Bon, trêve de plaisanterie. En fait, quoi, qu'est-ce que vous cherchez? Vous grattez, vous faire parler, effectivement. Bon, vous savez, il est bleu. Il est bleu. Bon, continuez de gratter. Où est-ce que vous avez vu ça? Où est-ce que... Ah oui, on a parlé à France Culture, mais quel jour? Ah. Bon, c'était quand... quelle émission? Bon, alors, on arrive quand même à donner une indication un peu précise de l'heure, de l'émission, de la date, etc. Alors, j'ai les programmes de France Culture depuis 6 mois. Alors, feuillette, je garde. Bon, je vais lui chercher son livre. Il est rouge. Voilà. Mais c'est comme ça en permanence. Les gens perdent la mémoire, je crois. Je crois qu'il y a une saturation d'image et il y a une perte totale de la mémoire. Oui, la mémoire, la vraie mémoire, la mémoire. Si les libraires perdaient aussi la mémoire, je crois que la librairie serait foutue.
Marie-Madeleine Chan, la douce et délicieuse libraire du boulevard Montparnasse à Paris.
On dit qu'on mérite sa clientèle. J'espère que je la mérite.
Vous êtes la star de la librairie.
Oh non. On fait tout ce qu'on peut pour rendre service, pour chercher, pour procurer les livres, pour les fournir propres. Bon. Ah oui, propre. En bon état, je veux dire. En bon état, on couvre à peu près tous les livres un peu fragiles, les livres d'art. Nous les recouvrons quand ils arrivent, de papier cristal. C'est presque du travail à la chaîne, ça. Mais ils ont des livres impeccables. En général, nos clients sont très difficiles. Petite tâche, il faut faire... Alors que souvent, on les reçoit des maisons d'édition, même en mauvais état, alors il faut les échanger. C'est tout un... On ne réalise pas la librairie, le petit travail matériel de patience que ça demande.
C'est de l'artisanat.
Ah oui, c'est de l'artisanat, c'est sûr.
Les libraires, ce sont les seuls gens qui savent considérer un livre et le soigner.
C'est ça. Le soigner, c'est exactement, d'ailleurs, vous entendez, on est en train de les brosser, là. On entend la brosse. Et oui, quand on garde les livres en rayon, on garde le fond, il reste. Bon, en masse, il reste. Bon, mettons qu'un ou deux ou trois changent, mais il reste. Donc, il faut l'entretenir, sinon ça devient des livres d'occasion. Enfin, je ne sais pas si vous avez une bibliothèque chez vous, mais vous avez une idée de ce que ça c'est.
Parmi les clients, il y a des fous.
Des fous, oui, il y en a pas mal même dans le quartier. des fous gentils. Des fous gentils. Avec qui on est amis d'ailleurs, pratiquement. Il faut que tout le monde puisse rentrer dans la librairie, même des clients qui ne savent pas quelque chose. Enfin, il y a des clients qui sont timides, qui ne se sentent pas à l'aise, qui n'ont pas l'habitude. Donc c'est là où il faut faire vraiment l'effort de les rendre, les mettre à l'aise, même s'ils demandent un livre qui paraît très courant. Faut en tenir compte, enfin. Il faut les considérer comme les autres. Ça, moi, je crois que c'est très important. Que les librairies ne fassent pas peur aux personnes qui n'ont pas l'habitude tellement d'y venir, qui ne sont pas tellement lettrées, qui ne sont pas tellement à la mode, vous voyez. Il faut qu'ils se sentent à l'aise et c'est ça l'important.
Qu'est-ce que vous leur faites aux livres ?
Qu'est-ce que je leur fais ? Ben, je les magnétise pour pas qu'on me les fauche, parce que de plus en plus on les fauche. Alors ça, c'est embêtant. Mais c'est vrai qu'il y a un plaisir physique à les toucher. C'est vrai que c'est amusant de faire des vitrines. Mais ce qui est plus amusant encore, c'est de faire découvrir à des gens quelque chose qu'on a aimé. Je crois que c'est la récompense suprême, ça. Et c'est vrai que pour bien vendre un livre à quelqu'un quand on nous demande conseil, il faut savoir un peu ce qu'il aime et qui il est. Alors avec le temps, on a l'expérience des visages quand même, ça aide beaucoup. Et puis le comportement des gens aussi, c'est très net. Mais je crois que les coiffeurs et les libraires remplacent les curés d'une certaine façon maintenant. On n'a plus le temps d'aller se confesser ou on veut plus, mais on se confesse chez le coiffeur et chez son libraire. Qu'est-ce qu'on a comme confidence, hein ? Puis on a plus ou moins une tête à ça. Moi, je crois que c'est une vocation aussi, je devais l'avoir depuis toujours. Qu'est-ce que je peux entendre comme tranche de vie ? Je me souviens, c'est assez récent même, quelqu'un que je sentais en profonde dépression, alors vraiment en profonde dépression, qui m'a demandé un bouquin pour lui changer les idées. Alors je lui ai recommandé un Tom Sharp en lui disant que c'était complètement délirant, mais j'adore, très marrant, d'abord pour le faire rire, ça me paraissait important. Et puis je lui ai conseillé un petit bouquin qui s'appelle... un petit bouquin des éditions Astra, qui s'appelle Le jeu de la vie, et qui est un petit livre ésotérique qui donne des conseils très simples pour les gens perturbés. Et j'ai vu la même personne revenir 8 jours après en me disant que ça lui avait fait beaucoup de bien et ça se sentait. Alors là, ça me paraît... ça fait plaisir. Mais on sent les gens, on en voit des gens perturbés à notre époque, hein, Seigneur.
Il a 26 ans, des lunettes cerclées d'or, l'air perdu dans ses rêveries. Il a, depuis qu'il est tout petit, la passion des livres, des beaux livres, des très beaux livres. De sa bibliophilie comme pulsion, il a finalement décidé d'en faire son métier, en devenant libraire d'occasion, de livres anciens et de catalogue de la librairie ancienne. Les maniaques du livre, il connaît. Sylvain Goudemard.
Il y a des caricatures. On peut être très féroce avec eux, mais ils peuvent être aussi très méchants avec nous. Le bibliophile fou, l'amateur du papier de couleur, l'amateur de la reliure bleue, etc. Il y a des gens qui collectionnent uniquement des auteurs suicidés. Il y en a d'autres qui collectionnent uniquement des auteurs qui sont morts à 60 ans ou des livres de leur date de naissance ou des choses comme ça. Et puis, bon, bah, c'est toujours assez curieux de rencontrer ces gens-là. Je crois que les bibliophiles sont tous un peu fous, mais il y a des fous sympathiques aussi. Il y a aussi, dans le côté bibliophilie, le livre valeur de placement. Le type qui cherche à rentabiliser son argent. La bourse, c'est pas terrible, donc il se dit, bon, bah, autant acheter des beaux livres. Et puis, bon, bah, on vendra ça plus cher d'ici quelques années. Alors ça, c'est très, très désagréable. Ça se passe généralement mal, d'ailleurs. Et puis, il n'y revient pas.
Gilles Thomas.
Le contact s'est fait très vite et en fait, j'ai une relation avec mes clients qui est une relation amicale. Je suis invité chez mes clients à manger le soir. Je les invite au restaurant. Bon, pas tous,
pas
mais certains. Pas chez moi, parce que c'est pas tellement facile. Mais, bon, si vous voulez... Par exemple, je ne suis pas de ces libraires qui est chaud pour les signatures d'auteurs. Je trouve ça d'un ridicule. C'est bête. Alors, je souhaite animer un petit peu la librairie. Alors, une idée qui m'est venue l'année dernière, aimant beaucoup le théâtre, j'ai loué un théâtre. Un café-théâtre, Avec le spectacle, j'ai fait des cartons d'invitation et j'ai invité mes clients. Et le théâtre était complet, il y avait même des gens sur les escaliers, assis sur les escaliers. Alors, j'avais choisi une pièce qui allait avec la librairie. C'était une pièce en hommage à Paul Léoto. Donc, c'était d'une pierre deux coups. Il y avait une animation, il n'y avait pas de contrepartie, je leur demandais pas d'acheter, il n'y avait pas de signature, et c'était, me semble-t-il, un peu plus intelligent qu'une signature. En fait, ce que j'aurais voulu faire, c'était être comédien. Alors, c'est vrai que la librairie, c'est une sorte de scène. Selon les clients... Enfin, je ne le fais pas systématiquement, mais je m'amuse beaucoup avec les clients. Mais eux s'amusent certainement avec moi, parce qu'ils jouent, on joue, on est des partenaires. Sauf qu'on n'est pas dans un théâtre, on est dans une librairie. Alors, y a ce côté-là qui m'a attiré. Puis, alors, j'ai toujours aimé la littérature, j'ai aimé les bouquins, j'ai aimé...
Marie-Pierre Boulet.
Il y a 22 ans maintenant que je suis libraire. Il y a une très très grande évolution. Je dirais qu'il y a quelque chose de triste un petit peu. J'ai senti une évolution de la clientèle surtout. Il me semble que la clientèle avant avait beaucoup plus de liberté, était beaucoup plus autonome dans ses choix, et que maintenant je suis très très frappée du comportement des gens, des clients. Que ce soit chez Gallimard, que ce soit au Divan, que ce soit chez Delamain, il y a les livres à la mode, il y a les livres dont on parle, et ceux-là, il faut les acheter. Alors qu'avant, on avait vraiment un échange avec les gens, il se passait vraiment quelque chose. Maintenant, très honnêtement, il y a un impact des médias, pardon, mais qui est très, très déprimant. On a l'impression que les gens n'osent plus dire bah, « ce livre-là, je l'ai aimé ». C'est-à-dire que nous, on sent que même si on a une passion pour un livre, on essaie de communiquer cette passion, il y a cette réaction des gens « Ah oui, mais j'en ai pas entendu parler à la télé. On n'en a pas parlé non plus à la radio, mais j'ai pas vu de critique. » Ça, c'est très très dur. Alors bon, c'est peut-être dû aux emplacements géographiques des trois librairies en question. Et un livre qui est à la mode, j'ai l'impression que personne n'osera dire « Ah bah oui, moi j'ai pas aimé. » Ça, moi, ça me tue. Je vous prends pardon de citer des livres, mais que ce soit Duras, que ce soit, je me rappelle, les salons de Württemberg, il y a des gens qui m'ont dit comme ça, mais presque en s'excusant, vous savez, ça m'a ennuyé. Et je trouve ça terrible, parce que je crois qu'on ne porte pas de jugement de valeur. Et c'est fou de se rendre compte que les gens n'osent plus dire, ça j'ai pas aimé si tous les critiques ont été dithyrambiques sur un livre, ou de dire ça j'ai aimé si par contre ça a été descendu en flèche par X, Y ou Z. Et je trouve ça dommage. C'est ça que je veux dire. Et ça me frappe vraiment beaucoup, beaucoup.
Ce qu'on sait, c'est que les gens en librairie ont tendance à acheter ce qui est présenté, ce qui est en table, sur table, ce qui est en vitrine.
Françoise Prunel.
Les personnes qui vont dans les rayonnages sont des personnes, des clients qui sont déjà habitués aux livres, aux lieux et qui bon, savent qu'il y a des trésors dans les rayons.
Thank you.
vous avez un client qui va vous demander, je vous dis, bah, tiens, je commence une psychothérapie, j'aimerais bien aller un petit peu sur, me documenter. Bon, alors vous allez trouver quelque chose, et puis le client s'en va, puis après vous avez une dame qui vous dit, alors, je voudrais offrir un livre à une petite fille qui a 7 ans, qu'est-ce que vous me conseillez? Alors bon, il faut que vous sachiez, elle a 7 ans, puis alors après vous avez un monsieur, bah, écoutez, je pars vers Annecy, je vais au sport d'hiver, j'ai la carte Michelin qui correspond. C'est-à-dire que vous devez savoir par cœur tous les numéros des cartes Michelin. Puis alors après, oh, la poésie classique, non, j'en ai un petit peu assez, j'aimerais bien de la poésie contemporaine. Mais qu'est-ce que je peux lire? Puis alors après, on va vous... Vous n'êtes pas une encyclopédie.
Ah, les clients. Les clients, décidément, ne sont plus ce qu'ils étaient. Une constante, cependant, le vol. Chapitre épineux, douloureux, Francis Geffard, 1000 pages, à Vincennes.
L'image du libraire a évolué. Ça, il m'est difficile de le dire parce que, bon, j'avoue que... moi, j'ai l'image des libraires quand j'étais client. Maintenant, je ne l'ai plus parce que c'est vrai que quand je rentre dans une librairie, il me faut 2 minutes pour voir si elle me plaît ou si elle me plaît pas. C'est pas la tête des gens, c'est pas la manière dont ils m'accueillent, mais c'est les livres, voir comment ils sont disposés. Il y a des, moi, il y a des juxtapositions d'auteurs sur une table qui me gênent ou qui me choquent. Il y a des choses que je ne tolère pas, quoi. Et c'est vrai que de ce fait, je suis à même d'avoir que l'image des libraires que j'ai côtoyé quand j'étais lecteur, qui étaient des libraires de la vieille génération, on n'avait pas le droit de toucher aux livres, on était toujours un peu surveillés de crainte du vol. Alors nous, j'en ai un peu tiré des leçons au niveau de la librairie, mais on a un système anti-vol, ce qui fait qu'on laisse toute personne errer et se promener à sa guise. Souvent, l'habit ne fait pas le moine et on a des surprises. Quelquefois, quand on se rend compte, ça m'est arrivé au tout début... de la librairie, de voir que des gens très bien, très bon chic, bon genre, en fait, piquent des livres. Je crois qu'il n'y a pas de profil type du voleur de livres. Il y a eu quelquefois des épisodes avec des jeunes qui piquaient des livres. C'était souvent, je me souviens d'un gamin qui avait piqué un Manhattan Transfer d'Os Passos, qui était à l'évidence quelqu'un qui est un gamin qui n'était pas d'un milieu défavorisé. Je ne l'ai pas arrêté. J'ai fait celui qui ne le voyait pas. Et il est revenu, il revenait d'ailleurs sans arrêt, il est revenu 4 mois plus tard en me disant, vous savez, il y a 4 mois, je vous ai volé un livre. Je dis oui, je sais, ce jour-là, je t'ai vu. Il m'a dit, ce livre, ça m'a beaucoup plu, je tiens à vous le payer. Bon, et ça, j'ai trouvé ça génial, on ne sait pas arriver souvent.
C'est une histoire très morale.
C'est une histoire très morale, mais bon, signe qu'il y a des voleurs qu'on tolère et d'autres qu'on tolère moins, quoi.
Catherine Martinzé, libraire à Orléans.
Ah, le vol, c'est terrible. Le vol, c'est le cauchemar. Le vol, c'est le cauchemar parce que ça met en péril une librairie. Ça, c'est, je crois, la première chose. Parce que, bien souvent, dans un stock, le livre est à l'unité. Un client vous demande un titre, vous savez que vous l'avez. Et nous, en ce qui nous concerne, on a une librairie à 3 étages. C'est-à-dire, il y a un rez-de-chaussée. Où sont toutes les nouveautés? Il y a le sous-sol, qui est l'endroit préféré, en tout cas celui que je préfère, parce que les murs sont tapissés de livres. C'est un endroit très calme. C'est très important, je trouve, que les librairies soient des lieux où les gens puissent tranquillement découvrir leurs auteurs. Donc, on descend chercher le livre et n'y est plus. Je veux dire, alors, on est très, très embêté. Parce qu'on n'a pas le livre alors qu'on pensait l'avoir, vis-à-vis du client, on est obligé de le commander. Ce qu'on ne souhaite pas faire quand on a un stock, on souhaite au contraire trouver le livre tout de suite. Donc ça, c'est la deuxième chose embêtante. Et la troisième chose, c'est qui l'a volé. Alors tout d'un coup, on se dit, il y a un tel qui est resté très très longtemps devant ce rayon-là. Peut-être que c'est lui, mais est-ce que c'est lui? Et si c'est quelqu'un qui vient souvent, est-ce qu'il est vraiment fautif? Non, ça, c'est vraiment la bête noire des libraires. Alors il faudrait mettre, il y a maintenant on peut faire poser des systèmes pour détecter le vol, mais c'est valable pour les très très grandes librairies. Donc il faut fonctionner autrement, il faut essayer de ne pas se faire voler de livres. Or, la librairie est pleine de recoins. C'est ces coins-là, précisément, qu'on aime. Dans un petit coin, il y a le cinéma. Dans un autre, il y a la poésie. Donc, il faut que ces coins puissent continuer à exister. Il faut que les gens puissent continuer à traîner dans les rayons, sortir les livres, les regarder, au besoin, les lire pendant une journée entière. Emma Spero parle très bien de ça. Il parle des gens qui restent des journées entières à piétiner et à lire. Moi, ça, je trouve que c'est très bien. C'est le rôle d'une librairie. Il faut vendre, mais en même temps, ça doit être au fond, un lieu presque comme une bibliothèque. D'ailleurs, il dit très très bien ça au début de son livre. Il dit « Nous étions plusieurs à nous raconter tout ce que nous ferions si nous avions un lieu ouvert et calme, un peu bibliothèque, un peu de discussion, un peu magasin. » Je trouve que ça résume bien ce qu'est une librairie.
Georges Dupré, libraire du temps de Maspero, du temps du Figuier, actuellement directeur de la librairie La Une à Paris.
On vole dans votre librairie?
Pas une question, ça. On ne vole donc pas les... Hein? Pas une question. C'est pas un problème du vol. Bon, je fais pas une apologie du vol, parce que, bon... Dieu sait si, comme libraire, j'en ai souffert et disgusté jusqu'au cou. Non pas cou, COU, mais COUPS.
C'est-à-dire?
Oui.
Qui vous donnait des coups?
Bah, les voleurs. Vous savez, quand il faut aller chercher un livre dans le pantalon d'un garçon ou dans le chemisier d'une jeune femme.
C'est mieux,
bon, je sais pas, c'est peut-être mieux, mais enfin bon, la région est plus. Bon, pas très amusant, puisqu'il y a des échanges de coups de griffe et de coups de pied, de coups. Oui, bon.
Henri Cause, directeur commercial des éditions de Minuit.
Tout devrait être payant, sauf le livre, parce que c'est un produit noble, parce que c'est la culture, égale gratuité. Bon, ça serait trop long, je pense que ça vient de toute une histoire même du socialisme, enfin, etc. Ce sont des idées de gauche, de la Troisième République et même sûrement avant. Bon, mais on en est arrivé parce que donc, le livre est vendu, c'est donc un scandale, donc on peut, en effet, on admet, soit on peut le voler, ça, c'est la solution extrême, disons, pour résoudre ce problème, et c'est là. Et moi, je suis toujours étonné aussi de voir, dans des interviews de gens qui ont 50 ans, qui ont réussi, eh bien, ça ne pose qu'un problème de raconter, quand ils étaient étudiants, ils faisaient un monôme, un peu de charrue, puis ils volaient des livres. Hein. C'était les très anciens, ce sera sous les boîtes de Flammarion quand il était autour du théâtre de l'Odéon. Bon. les plus jeunes, ça sera à la joie de lire de François Maspero, etc. Mais c'est admis, c'est-à-dire qu'ils ne racontent pas dans leur anecdote ou dans leur interview ou dans leur mémoire qu'ils ont été volés un saucisson parce qu'ils avaient faim ou qu'ils ont été volés, etc. Donc le livre, bon, est toujours dans les dîners en ville. Si quelqu'un dit, tiens, hier, bah oui, tiens, je me suis retrouvé au commissariat, j'ai été arrêté dans telle librairie avec un système de caméra. Bon, mais on n'a pas honte, je veux dire, les libraires qui parfois tellement énervés vont porter plainte, vont faire venir le quart de police, sont étonnés de l'arrogance des gens qui ne comprennent pas, ils viennent de voler. C'est-à-dire, on irait chez eux, on volerait l'équivalent d'un livre, même un livre de chez eux, ou l'équivalent d'un livre, eh bien ces gens-là seraient les premiers à alerter la police, à porter plainte, etc. quoi.
Peu avant d'arriver devant Vanier, je m'arrêtais près d'un étalage de livres d'occasion. Les livres ne m'intéressaient point tant qu'un jeune lycéen de 13 ans environ, qui fouillait les rayons en plein vent sous l'œil placide d'un surveillant assis sur une chaise de paille dans la porte de la boutique. Je feignais de contempler l'étalage, mais du coin de l'œil, moi aussi, je surveillais le petit. Il était vêtu d'un pardessus usé jusqu'à la corde et dont les manches trop courtes laissait passer celle de la veste. La grande poche de côté restait bâillante, bien qu'on sentît qu'elle était vide. Dans le coin, l'étoffe avait cédé. Je pensais que ce pardessus avait déjà dû servir à plusieurs frères, et que ses frères et lui avaient l'habitude de mettre beaucoup trop de choses dans leurs poches. Je pensais aussi que sa mère était bien négligente ou bien occupée, pour n'avoir pas réparé cela. Mais à ce moment, le petit s'étant un peu tourné, je vis que l'autre poche était toute reprisée grossièrement avec un gros fil noir. Aussitôt, j'entendis des admonestations maternelles. « Ne mets donc pas deux livres à la fois dans ta poche, tu vas ruiner ton pardessus, ta poche est encore déchirée, la prochaine fois, je t'avertis que je n'y ferai pas de reprise, regarde-moi de quoi tu as l'air. » Toute chose que me disait également ma pauvre mère, et dont je ne tenais pas compte non plus. Le pardessus ouvert laissait voir la veste. Et mon regard fut attiré par une sorte de petite décoration, un bout de ruban, ou plutôt une rosette jaune qu'il portait à la boutonnière. Je note tout cela par discipline et précisément parce que cela m'ennuie de le noter. À un certain moment, le surveillant fut appelé à l'intérieur de la boutique. Il n'y resta qu'un instant, puis revint s'asseoir sur sa chaise. Mais cet instant avait suffi pour permettre à l'enfant de glisser dans la poche de son manteau le livre qu'il tenait en main. Puis tout aussitôt, il se remit à fouiller les rayons comme si de rien n'était. Pourtant, il était inquiet. Il releva la tête, remarqua mon regard et comprit que je l'avais vu. Du moins, il se dit que j'avais pu le voir. Il n'en était sans doute pas bien sûr. Mais dans le doute, il perdit toute assurance, rougit et commença de se livrer à un petit manège où il tâchait de se montrer tout à fait à son aise, mais qui marquait une gêne certaine. Je ne le quittais pas des yeux. Il sortit de sa poche le livre dérobé, l'y renfonça, s'écarta de quelques pas, tira de l'intérieur de son veston un pauvre petit portefeuille élimé, où il fit mine de chercher l'argent, qu'il savait fort bien ne pas y être. Fit une grimace significative, une moue de théâtre, à mon adresse évidemment, qui voulait dire « Zut, je n'ai pas de quoi !» Avec cette petite nuance en surplus, « C'est curieux, je croyais avoir de quoi. » Tout cela un peu exagéré, un peu gros, comme un acteur qui a peur de ne pas se faire entendre. Puis enfin, je puis presque dire, sous la pression de mon regard, il se rapprocha de nouveau de l'étalage, sortit enfin le livre de sa poche, et brusquement le remit à la place que d'abord il occupait. Ce fut fait si naturellement que le surveillant ne s'aperçut de rien. Puis l'enfant releva la tête de nouveau, espérant cette fois être quitte. Mais non, mon regard était toujours là, comme l'œil de Caïn. Seulement, mon œil à moi souriait. Je voulais lui parler. J'attendais qu'il quittât la devanture pour l'aborder. Mais il ne bougeait pas, et restait en arrêt devant les livres. Et je compris qu'il ne bougerait pas tant que je le fixerais ainsi. Alors que mon fait à quatre coins pour inviter le gibier fictif à changer de gîte, je m'écartais de quelques pas, comme si j'en avais assez vu. Il partit de son côté, mais il n'eut pas plutôt gagné le large que je le rejoignis.
Vous écoutez Nu Magnétique, les libraires, toute cette semaine. L'espace de la librairie, la vie dans la librairie. Christian Torel, libraire à Toulouse.
Ma vie quotidienne, bah, vous savez, c'est quoi? C'est 9h du matin, on se prépare, parfois avec le cœur un peu là.
Pourquoi?
Aller au travail. Mais parce qu'au bout d'un moment, on est un petit peu attaqué par la routine, comme tout le monde. 9h30, c'est l'ouverture du magasin, on se chauffe, c'est un petit peu comme du sport. Et puis c'est parti jusqu'à 7h30. À 7h30, on ferme les grilles. Et toute la journée, c'est ponctué à la fois de très bons moments, de rapports avec des gens, qu'ils soient professionnels ou qu'ils soient clients. Bon, parfois, malheureusement, ponctué de cette espèce de hargne qu'ont les gens à appeler, à téléphoner. C'est-à-dire une journée qui est très entrecoupée de tas de choses parfois inutiles. On aimerait que les choses se passent parfois plus posément, de façon plus sereine. Mais c'est un petit peu de tout. Il y a des grandes journées, d'autres des journées moins flatteuses pour soi.
Vous voulez dire qu'il y a un manque d'harmonie?
Obligatoirement, il y a un manque d'harmonie parce que, si vous voulez, nous, on n'est pas... libraire, on n'est pas dans un bureau. Je crois qu'on a plus de chance qu'à Paris. Je crois que je préfère être libraire actuellement en province qu'à Paris.
Moi, je suis une librairie dans un quartier, une librairie qu'on pourrait dire un peu de style quartier latin, mais donc dans le 18e arrondissement. En fait, mon projet, je travaillais dans la librairie depuis à peu près une quinzaine d'années. Mon projet donc était d'ouvrir une librairie dans un quartier où il n'y avait pas à proprement parler vraiment de librairie, où on était relativement peu nombreux. Et donc, j'ai trouvé le 18e, ça me plaisait bien. Et bon, ben, cette aventure s'avère assez sympathique. Et ça valait le coup de jouer le jeu.
Parce qu'on a le sentiment d'être moins soumis à la pression médiatique, à la pression des modes, chez nous. Où on a encore, peut-être pas pour longtemps, mais le sentiment que le temps est un petit peu plus de notre côté en province qu'à Paris. Et ça, c'est important, parce que je crois que le livre, c'est son essence même, c'est ça, c'est de préserver cette notion de temps.
Le temps de défendre aussi la vie d'un livre.
Oui, le temps de défendre la vie d'un livre, le temps... par exemple, chez nous, les choses démarrent plus lentement. C'est-à-dire que moi, quand je reçois un livre avec 4 jours de retard, bon, je ne fais pas, outre mesure, une crise ou une maladie. Je sais qu'à Paris, on ne peut pas. Et je trouve que cette façon de... On a déjà suffisamment de motifs de stress, si vous voulez, sans s'imposer celui-là. On a moins la présence des auteurs aussi en province qu'à Paris. Et je crois que
les auteurs qui viennent vous embêter, regardez le niveau des piles.
Absolument, par exemple. Et ça, je le ressens plutôt comme un bénéfice.
Donc dans une petite librairie de 24 mètres carrés, mais où tout l'espace est utilisé. Et dans cette librairie...
Pas le plafond.
Oh, pratiquement, c'est tout juste si j'ai pas pensé à mettre des tables poulies que je pourrais descendre, parce qu'il y a 10 000 livres à
Gilles
peu
Thomas.
Près dans 24 mètres carrés. Ce qui fait que j'ai des livres jusqu'au plafond et j'ai des livres en pile par terre. Voilà, je suis un peu envahie, c'est un peu une sorte de forêt de papier. Bah, je laisse tout le temps la porte ouverte, été comme hiver, même en ce moment où il fait pourtant bien froid, la porte est ouverte. Et puis je fais de telle sorte, je n'agresse pas du tout les gens. À la limite, je leur demande pas. Enfin, j'essaie de voir.
Non,
mais
bonjour quand même.
Oui, je dis bonjour. Parfois, il n'y a pas de nom d'écho, il n'y a pas de bonjour en contrepartie, ce qui est un peu dommage. Mais bon, je vois si un client cherche, tâtonne, je lui demande ce qu'il cherche, mais sinon je le laisse errer dans la librairie.
Catherine Martinzet, libraire à Orléans, les temps modernes.
Notre optique, c'était de créer un lieu. Je crois que c'est resté ça, l'objectif de la librairie, c'est avant tout dans la ville, un lieu. C'est-à-dire un lieu pour les gens qui y habitent, mais aussi pour nous. Je dirais un lieu pour moi aussi. Et ce que j'aime dans ce métier, c'est être dans cette librairie que donc nous avons installée, d'après des plans qui étaient les nôtres, pas du tout d'après des plans tout faits. Vous savez, comme maintenant on dit, on va créer une librairie, cette librairie, elle est l'installation de telle entreprise. C'était pas du tout ça, on a essayé de créer un lieu comme on installe une maison, c'est-à-dire des meubles fait bien sûr pour bien exposer les livres, et ça reste très important. Les gens nous disent toujours, 20 ans après la création de la librairie, mais votre librairie est très belle, comment l'avez-vous conçue? On l'a conçue pour que les livres soient au mieux montrés. Et je dirais que le plaisir, un des plaisirs premiers d'être libraire, c'est aussi, au fond, vivre au milieu des livres, c'est-à-dire à la fois les lire, les découvrir, mais aussi l'objet en lui-même, vivre au milieu d'eux, les exposer au mieux, savoir que dans tel ou tel endroit de la librairie, il y a cet auteur-là qui y est, moyennant quoi la vie de la librairie peut se développer. C'est-à-dire que c'est à la fois un lieu, à l'intérieur de ce lieu, des présences familières et indispensables. On était plein d'idées, on a constitué un stock excessif, très très important. Très important.
Trop important?
Non, pas trop important. Un stock, je dirais, magnifique. Et au fond, je regrette presque de ne pas avoir photographié la librairie de cette époque-là. Parce qu'au fond, on pouvait, je crois, à ce moment-là, beaucoup plus que maintenant, créer une librairie dans l'abstraction de la rentabilité, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas dit, voilà, ce linéaire-là, comme on dit maintenant, va rapporter tant. On s'est dit, dans la littérature française, il y a ces auteurs-là qu'il faut mettre, dans la littérature étrangère, ces auteurs-là. Et au fond, ça a été un stock de passion, je dirais. Et au fur et à mesure des années, la difficulté, ça a été de garder ce stock-là.
Qu'est-ce qui est le plus gratifiant pour une libraire?
J'ai longtemps pensé que c'était la reconnaissance des autres partenaires dans ce métier, c'est-à-dire les éditeurs, les écrivains, bien sûr.
Michel Ferradou.
Maintenant, je suis peut-être un petit peu détachée de ça, tout en sachant que c'est indispensable aussi, mais en sachant que ça repose beaucoup sur la compétence professionnelle, sur ce qu'on est capable au long des années d'instituer et de faire progresser. C'est-à-dire que ça ne peut pas être quelque chose d'un instant. C'est vraiment un travail de longue haleine. Maintenant, ce qui serait sans doute le plus gratifiant, c'est d'arriver à dans la librairie, par une politique de fond, permettre à un certain nombre d'auteurs, à un certain nombre de textes, de prendre le temps, quoi, j'explique mal. Un livre qui n'aurait pas de public, un auteur qui n'aurait pas de public, avec un travail au fil du temps qui passe par plein de choses, des vitrines, des animations, enfin bref, en parler avec des clients, trouver les 50 lecteurs dans la librairie pour ce livre-là et le faire au fil du pour les livres suivants. Ça, je trouve ça assez gratifiant, ce rôle-là de maintenir les fonds et permettre au fond de demain de prendre le temps de se faire, quoi.
Dans une librairie, il faut absolument qu'il y ait certains livres.
Ah oui.
Auxquels vous tenez absolument. Sans ça, vous ne seriez pas libraire.
Tout à fait, tout à fait. Je crois qu'il y a une banque culturelle. Enfin, il y a des auteurs sur lesquels on ne peut pas faire d'impasse. Ce sont des gens qui ont permis la diffusion d'idées, qui ont permis la diffusion d'une certaine langue. C'est impensable. Je veux dire, il y a des auteurs de base, comme il y a des piliers autour pour une construction, hein, les fondations. Et à partir de là, à chaque libraire de rajouter ses amours. Hein.
Ah ben, je crois que chez tout libraire, il y a un éditeur qui sommeille, oui. À force de voir tous ces livres publiés, étalés un peu partout, on a envie d'en faire soi-même. Et puis sûrement aussi, quelque part, quelqu'un qui a envie d'écrire. Et puis, tous ces aspects se confondent devant le... Parce qu'il y a l'objet imprimé est une... C'est pas un dieu quand même, mais c'est quand même une sorte de référence permanente dans la vie quotidienne. Je peux pas me déplacer sans avoir un livre avec moi, par exemple. C'est toujours... Sans vouloir penser à Mallarmé qui rêvait d'un livre absolu, c'est une forme d'absolu. Disons, la lecture d'un texte magique ouvre des portes que le quotidien ne nous permet jamais d'ouvrir. Quand je lis Peter Ibbetson de Du Maurier, je me dis que tout est possible. Donc, à partir de ce « tout est possible », on peut toujours espérer. Et c'est un espoir permanent, le livre. C'est pour ça qu'il faut toujours le défendre et toujours l'avoir présent.
Georges Dupré.
Mais c'est pas de... Bon, c'est un travail très, très pragmatique. C'est plein de ficelles, plein de trucs, plein de rapports un peu, je vais pas dire bizarre, mais presque. C'est vraiment un jeu permanent. Moi, c'est ce qui fait, je crois, aussi l'intérêt de ce métier. C'est que aussi, effectivement, moi, je parle bout de 40 ans de travail dans toutes ces galères, si on veut. Bon, je fais ça comme au commencement, avec le même plaisir.
Vous ne voyez pas faire autre chose?
Prendre ma retraite, un de ces quatre.
Come on.
Nuit magnétique, les libraires. Ce soir, troisième étape, l'espace de la librairie. Avec Françoise Sorel, Françoise Pruner, Roger de la Chavannerie, Gilles Thomas, Catherine Martinzé, Bernard Wallet, Jordi Vuiza, Georges Dupré, Marie-Madeleine Chan, Sylvain Goudemar, Marie-Pierre Boulet, Francis Geffard, Henri Cos, Christian Torel, Michel Ferradou. Texte, Raymond Chandler, Le Grand Sommeil, André Gide, Les Faux Monnayeurs. Merci à André Marcon et à Virginie Desmiances. Nuit magnétique, Noélie Louis-Marie, Philippe Destrebecq, Arnaud Laporte, Jean Couturier, Laure Adler. Nuit magnétique, bonsoir.
Cette émission a été diffusée la première fois le 21 avril 1988 sur France Culture. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France.